De quoi est-il question? Un débat entre pro-européens. Ce livre n'est pas pour tout le monde, mais presque. Pour commencer, et sans doute à la grande surprise, je ne m'adresse pas aux anti-européens, aux nationalistes ou souverainistes de tous bords. Ils ne trouveront pas ici d'arguments pour confronter leur position, ni de raisons supplémentaires de rejeter le traité établissant une constitution pour l'Europe. Ils ne trouveront que la volonté farouche de préserver et d'approfondir une ambition européenne qui n'est pas la leur. Hélas, ils diront non à ce traité pour de mauvaises raisons, et je doute qu'ils ne jugent utile d'en rechercher ici de meilleures. Toutefois, si les plus courageux d'entre eux s'aventurent au-delà de ces premières lignes, j'espère les convaincre qu'il est des pro-européens qui ne méprisent ni ne méconnaissent les peurs et les reproches engendrés par la construction européenne et qui sont porteurs d'un autre projet plus respectueux des peuples. Je ne m'adresse pas non plus aux ultralibéraux, au néolibéralisme pleinement satisfait de la transformation progressive et bientôt accomplie de l'Union européenne en un simple espace de libre-échange. Eux aussi, à leur façon, sont anti-européens, car ils entendent bien anéantir l'idée d'une Europe politique. Ils sont les seuls à disposer d'une excellente raison de dire oui à un traité constitutionnel dont l'adoption, je le montrerai, conforterait pour longtemps la victoire de leur modèle de société, société de compétition généralisée et d'individus libérés des charges de la solidarité, où le politique n'a plus les moyens de s'opposer à l'extension infinie de la logique marchande. Aussi, pour convaincre ceux-là de dire non, je devrais au préalable leur démontrer à quel point leur modèle de société est fou, faux et insoutenable. Et, pour ouvrir les voies de la pensée par où cette démonstration pourrait les atteindre, il faudrait aussi les libérer de la gangue d'égoïsme, de bêtises et de narcissisme qui les emplit de mépris pour les faibles et leur cache les vertus d'un monde où la coopération l'emporte sur la compétition, où les liens valent mieux que les biens. Cela, c'est le combat d'une vie, de la mienne en tout cas, mais vous comprendrez que ce ne puisse être celui de ce livre. Alors, dans le débat qui nous occupe ici, le traité établissant une constitution européenne, je ne peux que m'incliner devant la cohérence des néolibéraux. Je ne peux que m'incliner devant la cohérence des néolibéraux convaincus qui soutiendront à juste titre ce traité. Ce livre ne s'adresse donc pas plus à ceux qui ont de bonnes raisons libérales de dire oui qu'à ceux qui ont de mauvaises raisons nationalistes de dire non. Il concerne tout d'abord tous les autres, que je crois constituer l'immense majorité des citoyens européens, c'est-à-dire des femmes et des hommes attachés à la construction européenne, parce qu'ils en attendent autre chose qu'une intensification de la concurrence. Ils espèrent au fond tout simplement la poursuite du projet européen initial. Il s'agissait de prévenir le retour de la peste brune, du fascisme et du nazisme. Il s'agissait d'amener les peuples européens à faire société au lieu de se faire la guerre, à constituer une communauté humaine, solidaire, où chaque nation, chaque peuple, sort grandi, plus prospère et plus libre de son union avec les autres, où la volonté politique de vivre ensemble l'emporte sur le laisser-faire qui ne conduit jusqu'à jamais qu'à l'affrontement. La construction européenne est née, dès les années 1950, d'un compromis entre sociaux-démocrates, socialistes, libéraux et démocrates chrétiens qui, au-delà du clivage gauche-droite, s'entendaient pour reconnaître dans l'intégration européenne un outil de paix, de démocratie et de progrès. Cette démarche a si longtemps et si bien fait la preuve de sa capacité à concilier démocratie, progrès social et prospérité économique qu'elle a fini par séduire tous les pays européens, y compris ceux qui, à l'origine, ne voulaient pas en entendre parler.